tempo de l'histoire. Le tempo de l'histoire sur Radio Campus Paris. Nous allons remonter le temps avec les musiques de chaque époque. La musique ou les chansons rythment le temps de l'histoire. Ou c'est peut-être l'histoire qui impose la cadence. La musique est le reflet d'une époque. C'est aussi une pause éternelle. Les moments historiques sont marqués par des musiques sans doute inspirées par les événements de chaque période. C'est le tempo de l'histoire. Juillet 1835. Nouvelle expulsion des jésuites d'Espagne. Le maréchal Clausel est nommé gouverneur général des possessions françaises du nord de l'Afrique en remplacement du général Drouet d'Erlon. Loi sur les chemins de fer en France. En France toujours, évasion à la prison Sainte-Pélagie. Le 15 juillet de la même année 1835, bataille de Mendigoria, pendant la première guerre carliste. La bibliographie de la France enregistre une vie de femme liée aux événements de l'époque, roman en deux volumes d'Anne-Louise Madeleine de Gobineau, née de Gercy, mère d'Arthur. Du 25 juillet au 22 août, Victor Hugo, le grand poète, organise un voyage avec Juliette Drouet en France. Il parcourt la France et notamment l'ouest de la France, Montereau, Bray-sur-Seine, Provins, Coulommiers, Château-Thierry, Soissons, Laon, La Fère, Saint-Quentin, Péronne, Amiens, Abbeville, Le Tréport, Dieppe, Fécamp, Etretat, Montivilliers, Le Havre, Tancarville, Jumièges, Rouen, Les Andelys, La Roche-Guyon, Mantes, Pontoise, Villers-Cotterêts sont des villes traversées par le poète Victor Hugo. Le 28 juillet 1835, attentat de Fieschi. À la hauteur du 50 boulevard du Temple, une machine infernale tue 11 personnes, dont le maréchal Mortier. Le roi et ses trois fils sont miraculeusement indemnes. La danza de Rossini, une musique qu'on pouvait entendre en cette année 1835.
Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va. s'avanza e si ritira e alla sua tornerà. Già s'avanza e si ritira e alla salto tornerà. Serra, serra con la bionda, con la bruna va qua e là, con la rossa va seconda, con la sorda fermo sta. Viva il mondo tondo tondo, sono un re, sono un pascià, il più bel piacere del mondo, la più cara voluttà. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare. Mamma mia, si salterà. Fringhe, 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 mamma mia, si salterà. Fringhe, 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 mamma mia, si salterà.
La Danza est une chanson composée en 1835 par Giacomo Rossini sur un rythme rapide de tarentelle napolitaine. C'est la huitième chanson des soirées musicales organisées entre 1830 et 1835. Les paroles sont du comte Carlo Pepoli, librettiste de Vincenzo Bellini pour l'opéra I Puritani. La Danza n'est pas une partie d'une œuvre plus vaste, mais une pièce indépendante de musique, de chambre, vocale. En cette année 1835, Hoffmann von Fallersleben écrit la chanson « Alle Vögel sind schon da ».
Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Welch ein Singen musizieren, pfeifen, zwitschern, tirilieren. Frühling will nun einmarschieren, kommt mit Sang und Schalle. Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich legen. Amsel, Drossel, Finko und Star und die ganze Vogelschar wünschen dir ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen. Was sie uns verkünden nun, nehmen wir zu Herzen. Wir auch wollen lustig sein, lustig wie die Vögelein. Hier und dort fällt aus, fällt ein, singen, springen, scherzen.
Antonin Léopold Vorak, né le 8 septembre 1841 à Nelaozev, un village de Bohême dans l'Empire d'Autriche, situé au nord de Prague, le long de la rivière Vatva, où ses parents tiennent une boucherie-auberge. Il est l'aîné d'une famille de 9 enfants. Il découvre la musique dès son jeune âge à l'auberge familiale et apprend rapidement le violon avec son instituteur, ce qui lui permet de jouer à l'orchestre du village et au bal de l'auberge. Si son talent musical est manifeste et encouragé, son père le destine encore à prendre sa suite à la boucherie-auberge. Vers l'âge de 12 ans, ses parents l'envoient chez un oncle et une tante à Zionis, où il étudie le piano, l'orgue et l'harmonie. Il y apprend également l'allemand, la langue officielle de l'administration impériale autrichienne. Il compose ses premières polkas durant cette période. Dans les années 1840, le système international mis en place par Metternich s'effrite du fait de la concurrence des grandes puissances. Autriche et Prusse s'affrontent au sujet de l'unité allemande. Autriche et Russie s'affrontent au sujet des Balkans. Metternich souhaitant un statu quo et le tsar souhaitant le démembrement de l'Empire ottoman. À la suite du retour des libéraux en Grande-Bretagne, les rapports entre les deux puissances se dégradent. C'est pourquoi Metternich entame un rapprochement avec la France de Guizot, lequel appliquait une politique très conservatrice. En politique intérieure, Metternich n'est pas le seul maître et doit composer avec l'empereur François jusqu'au décès de ce dernier en 1835. Son successeur, Ferdinand, simple d'esprit, laisse la réalité du pouvoir au duo Metternich-Kolowrat. Soucieux de lutter contre les idées révolutionnaires, le gouvernement autrichien est un peu plus favorable à l'Église. Le clergé retrouve son droit d'inspection sur les écoles primaires et les collèges. Le clergé est assimilé à un corps de fonctionnaires, dispensateurs de sacrements. Si la plupart des membres du clergé sont satisfaits de leur situation, certains, les catholiques romantiques, tentent de redonner une dimension mystique dans la vie de l'Église. En 1840, le service militaire est ramené de 10 ans à 8 ans, sauf en Hongrie, et de nombreuses exemptions continuent d'être accordées aux nobles, fonctionnaires, médecins, étudiants, gros cultivateurs et soutiens de famille. À son retour vers l'âge de 15 ans, Anton Dvorak travaille un temps à la boucherie familiale jusqu'à ce que ses professeurs convainquent son père de l'envoyer à l'école d'orgue de Prague en 1857. Diplômé et lauréat d'un second prix, il rejoint la Prager Kapelle de Karl Komsak, un orchestre de variété, où il tient la partie d'alto. En 1862, la Prager Kapelle est intégrée au nouvel orchestre du Théâtre provisoire de Prague, ainsi nommé dans l'attente de la fondation d'un véritable opéra. Le Théâtre national de Prague verra le jour en 1881, mais il devra être une nouvelle fois inauguré en 1883 à la suite d'un incendie. Son expérience de musicien d'orchestre lui permet de découvrir de l'intérieur un vaste répertoire classique et contemporain. Il joue sous la baguette de Bedřich Smetana, Richard Wagner, Mili Balakirev et trouve le temps de composer des œuvres ambitieuses, dont deux premières symphonies en 1865. Des oppositions croissantes avec la moderne Prusse conduisent à la guerre de 1866. Les Prussiens s'allient à l'Italie afin d'encercler l'Empire. Les Italiens sont défaits à la bataille de Custoza le 24 juin, mais l'Empire est vaincu par la Prusse à la bataille de Sadova le 3 juillet 1866 et est contraint de céder la Vénétie. Par le traité de Prague du 23 août, l'Autriche abandonne la Confédération germanique qui est reconstituée plus tard comme empire allemand sans sa participation. Dvorak démissionne de l'orchestre en 1871 pour se consacrer à la composition. Il vit de leçons particulières avant d'obtenir un poste d'organiste à l'église Saint-Adalbert en 1874. Les danses slaves d'Antonin Dvorak figurent parmi ses œuvres les plus appréciées. Il s'agit de deux séries contenant chacune 8 pièces n'ayant aucune parenté tonale ou thématique entre elles. L'une et l'autre ont été écrites en premier lieu pour piano à 4 mains avant d'être orchestrées par le musicien lui-même. L'écriture de ces danses a été inspirée au compositeur par les danses hongroises de Johannes Brahms sur une suggestion de Fritz Simrock, éditeur de ce dernier. Dvorak a lui-même orchestré 5 des danses brahmsiennes. Le musicien tchèque s'est à de nombreuses reprises inspiré des musiques folkloriques de son pays ou d'autres régions. Il avait en particulier écrit des danses écossaises en 1877. Ces danses slaves ne sont cependant pas de simples transcriptions comme l'avait pu faire Brahms pour certaines des premières danses hongroises. De plus, contrairement à ce dernier, Dvorak s'est chargé intégralement de leur orchestration. Cette inspiration slave est relativement nouvelle par rapport à la musique hongroise, déjà représentée par Brahms, Franz Liszt et même Hector Berlioz, dans la marche hongroise notamment. Kennedy lance une initiative de paix pour le Moyen-Orient. Il souhaite l'application des recommandations de l'ONU sur les réfugiés palestiniens et la résurrection de la commission de conciliation de 1949. Les réfugiés arabes pourraient se voir octroyer le droit d'émigrer en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Australie, sauf 25% qui rentreraient en Israël. David Ben-Gurion refuse tout retour des réfugiés avant le règlement durable de l'ensemble de la question. Il se rend aux États-Unis en mai et recherche une intervention américaine contre les livraisons d'armes de l'Union soviétique. Un avion de reconnaissance américain de type U-2, avion espion, est abattu au-dessus du territoire soviétique. Le pilote américain Francis Gary Powers est arrêté et condamné le 17 août à 10 ans de prison pour espionnage. En Inde, le Gujarat est détaché de l'état de Bombay qui devient l'état du Maharashtra. Aux États-Unis, Garil Chessman est définitivement amené dans la chambre à gaz du pénitencier de San Quentin. Condamné à mort pour meurtre, il attendait son exécution depuis 12 ans et avait réussi à la repousser 8 fois. Nikita Khrouchtchev accède à la présidence de l'URSS. Mise à flot du paquebot France à Saint-Nazaire, dans les Pays de la Loire. Le président Eisenhower reconnaît publiquement que les États-Unis ont effectué des missions de reconnaissance aérienne au-dessus du territoire soviétique durant les 4 dernières années. Le 15 mai, il annonce que plus aucun vol d'espionnage ne sera fait. Décès du milliardaire américain John Davison Rockefeller Jr. qui laisse à sa femme une fortune de 150 millions de dollars américains. Naissance du joueur de tennis français Yannick Noah en 1960. En Argentine, 4 agents du Mossad israélien enlèvent le nazi fugitif Adolf Eichmann, se cachant sous le nom de Ricardo Clément. La capture est annoncée le 23 mai par le Premier ministre israélien David Ben-Gurion.
Quelle sera votre impression quand vous vous retrouverez face à face avec lui dans une prison en Israël ?
Des impressions, je n'en sais rien. L'avenir le dira. Mais j'aurai beaucoup, beaucoup de questions à lui poser.
En plus de ces témoignages accablants, il y aura les documents. Ces documents se trouvent actuellement dans un bâtiment des environs de Jérusalem, où Yad Vashem, qui est dirigé par le docteur Kubovi. Ce sont les archives de l'histoire du peuple juif.
Quel genre de documents, docteur, pourront trouver les enquêteurs dans vos bâtiments, dans vos archives ?
Nous avons réuni ici tous les documents qui ont rapport à l'extermination de la population juive d'Europe. Nous avons ici le document du ministère des Affaires étrangères nazi. Nous avons le dossier personnel d'Adolf Eichmann. Nous avons des témoignages qui ont été réunis au cours de nombreuses années. Le grand problème est la définition du cas Eichmann. Parce que Adolf Eichmann est lié à tous les aspects, à toutes les phases de l'extermination de la population juive. En somme, à tous les camps d'extermination. Et il sera très difficile de délimiter le procès.
Je lisais l'autre jour dans un journal allemand que Adolf Eichmann n'avait pas l'habitude de signer lui-même les ordres qu'il donnait.
Nous avons ici un très grand nombre de documents signés de sa main.
Et qui constituent des ordres pour...
Qui constituent des ordres de déportation et qui ont rapport au traitement spécial, parce que jamais les Allemands n'ont parlé d'extermination, ils ont employé l'euphémisme Sonderbehandlung. Mais chacun sait ce que cela signifie.
Et maintenant qu'Eichmann est arrêté et que vous savez que le procès va s'ouvrir, c'est une question de semaine ou de mois, dit-on, est-ce que vous avez l'intention de faire de nouvelles recherches pour trouver de nouveaux documents?
Ce n'est pas notre rôle à proprement parler. Nous continuons à réunir les documents parce que nous préparons ici en général le procès de l'histoire. D'ailleurs, comme Adolf Eichmann n'est que le symbole d'une époque, le symbole d'un régime, ce n'est pas la personne d'Eichmann en elle-même qui nous intéresse ou qui intéresse le monde. Ce qui intéresse, c'est le régime et l'extermination terrible, le procès de génocide qu'il représente.
Il existe donc de nombreux documents accablants signés par Eichmann lui-même. Mais au dossier, on trouvera également des témoignages personnels. En effet, la police a décidé d'ouvrir une boîte postale spéciale pour permettre à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont souffert des atrocités d'Adolf Eichmann d'envoyer leurs témoignages.
It's Now or Never, c'est maintenant ou jamais en anglais, est une chanson d'amour d'Elvis Presley, enregistrée en single chez RCA Victor en 1960, un des plus importants succès international de sa carrière et un des singles les plus vendus de tous les temps, avec plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, classé en tête des ventes de nombreux pays.
It's now or never. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's not the middle, my love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean. If we lost true love and sweet devotion, your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love.
Cette mélodie est adaptée de la célèbre sérénade napolitaine amoureuse emblématique Au Sole Mio de 1898. Elvis Presley, entend There is no tomorrow pendant son service militaire de l'US Army entre 1958 et 1960 en Allemagne, version anglophone du standard emblématique napolitain enregistré par l'acteur Tony Martin en 1949. Il rencontre et tombe alors amoureux de sa future épouse, Priscilla Presley, en 1959, avant de l'épouser en 1967 à Las Vegas, et demande à ses auteurs partenaires, Aaron Schroeder et Wally Gold, par l'intermédiaire de son producteur new-yorkais Freddie Bienstock, de lui composer des paroles anglophones personnalisées sur le thème d'une déclaration d'amour pour sa reprise « It's Now or Never ». La chanson sort en juillet 1960 et se classe numéro 1 du Billboard Hot 100 américain pendant 5 semaines. Elle domine les charts britanniques durant 8 semaines et les ventes du disque dans le pays atteignent le million d'exemplaires. Avec plus de 20 millions de disques vendus à travers le monde, It's Now or Never devient le single le plus populaire d'Elvis Presley. En 2008, It's Now or Never est retenu par le magazine musical américain Billboard dans son All Time Hot 100 Top Songs établi à l'occasion du 50e anniversaire du Billboard Hot 100. Cette émission est maintenant terminée. À bientôt pour d'autres périodes historiques rythmées par le tempo de l'histoire.